Radio Prague, les informations.
Taux de chômage de 9,2% en février. L'hôpital de Boulovka à Prague va réopérer les patientes aux implants défectueux PIP. Et puis, d'après une étude, le système anti-inondation de Prague est en très mauvais état. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 9,2% en février. Il s'agit d'une augmentation de 0,1 point par rapport au mois de janvier. Un peu plus de 525 000 personnes étaient donc sans emploi. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Comme de tradition, Prague et ses environs affichent le taux le plus faible avec moins de 4%, tandis que les régions industrielles de Bohême et de Moravie du Nord sont les plus frappées, avec notamment 17,9% dans le district de Jesenik. L'hôpital de Boulovka à Prague va commencer à réopérer des patientes porteuses d'implants mammaires PIP défectueux à partir de ce samedi. L'hôpital a fait savoir que face à la demande des patientes souhaitant un changement de leur prothèse sans délai, il allait relancer les opérations les samedis en mars et en avril. Les 5 premières patientes sont prévues ce week-end. Environ 2000 femmes en République tchèque ont reçu des prothèses PIP soupçonnées d'être défectueuses, tandis que les compagnies d'assurance ont dit qu'elles rembourseraient les nouvelles opérations pour les femmes ayant subi une intervention pour des raisons de santé. Celles qui l'ont fait pour des raisons esthétiques devront payer par elles-mêmes. D'après une étude menée par des experts et publiée dans l'édition de ce jeudi du quotidien Lidové Novené, le système anti-inondation de Prague, composé notamment de barrières, est en mauvais état, faute d'entretien. Le journal cite des experts qui affirment qu'à certains endroits de la rivière, les barrières sont tellement abîmées qu'elles ne supporteraient pas une montée des eaux. L'étude s'accompagne de photos qui viennent appuyer son propos. La ville de Prague a investi 3,7 milliards de couronnes dans son système anti-inondation après les crues dévastatrices de 2002. La gare d'entrepôt de Jižkov a de nouveau été classée par le ministère de la Culture, Patrimoine culturel national sur les recommandations du Bureau du patrimoine. Une information rendue publique par l'association Ici, ce n'est pas pour les promoteurs qui luttent pour la sauvegarde du site. Le propriétaire du site peut toutefois faire appel de cette décision, chose qu'il avait déjà faite auparavant. Dans ce cas, ce serait à la ministre de la Culture elle-même de trancher. Elle avait déjà fait savoir qu'elle était convaincue de la valeur patrimoniale du site. La gare d'entrepôt de Jižkov, construite en 1936, est l'un des plus grands ensembles architecturaux de type fonctionnaliste d'Europe. Le site immense est toutefois l'objet de la convoitise de promoteurs immobiliers. Du 12 au 18 mars se déroulera une semaine d'événements culturels à l'occasion des 35 ans de la fondation de la charte 77, document fondateur de la dissidence tchécoslovaque sous le régime communiste. Commémoration, exposition, pièces de théâtre feront partie du programme. La semaine ne s'adresse pas uniquement aux historiens ou aux anciens dissidents, mais également aux étudiants afin de leur faire mieux comprendre la période communiste et les conditions dans lesquelles est née la charte. Des pièces de théâtre de Václav Havel, un des fondateurs de la charte 77 et futur président tchèque, seront jouées. Un séminaire consacré au philosophe Jan Patočka, décédé pendant un interrogatoire de la police, sera également organisé. Et puis à noter que le coureur de légende tchèque Emil Zátopek se retrouve parmi les 12 premiers sportifs du Panthéon de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce Panthéon a été créé à l'occasion du 100e anniversaire de l'association. On finit par un mot de météo. Retour du soleil vendredi, jour de la fête des Františka. Quelques averses locales sont toutefois probables. Les températures varieront entre 4 et 8 degrés pour les maximales. Attention au risque de verglas dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord l'affaire de la privatisation douteuse de la société minière de Most, une affaire extrêmement complexe mais aussi extrêmement révélatrice des pratiques en cours dans le monde politique et économique tchèque. Dernière évolution, alors que le procès mettant en cause cet homme d'affaires s'ouvrira dans quelques mois en Suisse, la justice helvétique qui a enquêté sur l'affaire pendant plusieurs années a rejeté l'appel de l'État tchèque qui souhaitait se porter partie plaignante et entend récupérer quelques 150 millions de francs suisses. Plus de précisions sur le sujet dans quelques instants. Politique ensuite, le président de la République République, Václav Klaus est au seuil de la dernière année de son mandat au château de Prague et déjà le chef de l'État, qui se fait beaucoup entendre ces derniers jours, prépare son avenir, post-présidentiel. Et puis la seconde partie de ce programme sera plus légère, elle vous emmènera avec la rubrique touristique en Moravie pour vous faire découvrir une des plus belles villas de style fonctionnaliste au monde, une villa classée au patrimoine de l'UNESCO, la villa Tuggenhat. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute. À toutes et à tous. $150 millions, c'est la somme que l'État tchèque espère récupérer dans un procès qui s'ouvrira prochainement en Suisse. 150 millions de francs suisses, c'est en effet le montant estimé du préjudice et ce qu'aurait coûté à l'État tchèque la vente présumée illicite de la société minière de Most, Mostecká uhelná společnost, lors de la privatisation de l'une des plus importantes sociétés énergétiques du pays entre 1997 et 2002. Récemment toutefois, la justice Suisse a notoirement douché les espoirs tchèques en rejetant le recours de Prague qui, après des années d'hésitation, souhaitait se porter partie plaignante dans le procès. La République tchèque ne pourra donc pas s'asseoir aux côtés du ministère public de la Confédération helvétique dans le procès que celui-ci intente à 7 hommes d'affaires, parmi lesquels 6 tchèques et un belge. Inculpé en octobre dernier, parallèlement au blocage en Suisse de 600 millions de francs répartis sur plusieurs centaines de comptes, les 7 prévenus, tous impliqués dans la privatisation douteuse de la société minière de Most, sont accusés de blanchiment d'argent aggravé et de criminalité économique. Mais le procès, qui s'ouvrira dans quelques mois au tribunal pénal fédéral de Belinzone, est surtout devenu une véritable affaire d'État, essentiellement en raison des importants soupçons de corruption qui l'entourent et qui menacent d'anciens hauts responsables politiques tchèques, notamment le ministre du Commerce et de l'Industrie en poste en 1999. Même s'il a changé son fusil d'épaule depuis, l'État tchèque, qui était copropriétaire de la société minière de Most au moment de sa privatisation, n'avait dans un premier temps pas manifesté de réel intérêt pour cette affaire extrêmement complexe. Ainsi, encore en octobre dernier, le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, avait affirmé que la République tchèque ne se sentait pas lésée, s'appuyant pour cela sur la justice tchèque, qui n'avait trouvé rien d'illégal dans ce dossier qu'elle avait classé dès 2008, à la différence notoire de la justice suisse, qui, elle, mène son enquête depuis 2005. Ces 5 dernières années, les autorités tchèques n'avaient jamais accepté de répondre favorablement aux demandes de coopération judiciaire de la justice suisse, et n'avait jamais témoigné le moindre intérêt pour rejoindre la procédure, comme le confirme Radim Buresh, un des responsables à Prague de l'ONG Transparence Internationale. On l'écoute.
Une première demande suisse a été adressée en 2006 et depuis, l'État tchèque n'a pas été en mesure de s'organiser de façon à pouvoir répondre à la proposition suisse, ainsi pouvoir prétendre récupérer une partie de l'argent public dont il s'agissait probablement. Le fait que les différentes institutions, à savoir le procureur de la République, le ministère des Finances et dans une certaine mesure le ministère des Affaires étrangères, se soient rejeté la responsabilité démontre de quelle manière l'appareil d'État fonctionnait à l'époque. Cela confirme également qu'il n'y avait absolument aucune volonté et détermination pour défendre les intérêts de la République tchèque.
Toujours selon Radim Buresh de l'organisation Transparence Internationale, une chose est néanmoins certaine dans le désintérêt initial, l'attitude très longtemps passive et même la mauvaise volonté de la République tchèque.
Il est difficile de dire s'il y avait un intérêt direct de certaines personnes ou un manque de volonté de s'engager dans une affaire qui avait ou possède encore des dessous politiques. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a eu aucun effort manifeste entrepris pour résoudre une affaire aussi importante pour la société tchèque.
L'État tchèque a fait évoluer sa position à l'automne dernier, essentiellement parce qu'il était soucieux de récupérer les 150 millions de francs suisses, montant du préjudice dont il aurait été victime selon la justice helvétique. C'est seulement en novembre, un mois donc après le dépôt de l'acte d'accusation, que les autorités tchèques, notamment sous la pression des médias et de l'ambassadeur de Suisse à Prague, ont finalement décidé de rallier l'accusation suisse. Une décision prise toutefois trop tardivement, la demande de Prague pour se porter partie plaignante après un premier désaveu en décembre, ayant donc été rejeté une deuxième fois par la Cour du tribunal fédéral début mars. Selon la décision de celui-ci, citée dans l'édition de ce jeudi du quotidien genevois Le Temps, la République tchèque disposait, je cite, « de toute l'information nécessaire et utile à se constituer partie plaignante et ayant négligé de le faire en temps et en heure, le recourant, donc la République tchèque, a commis une faute suffisante pour exclure la restitution du délai. » Fin de citation. L'État tchèque ne bénéficiera donc pas lors du procès de certaines facilités liées au statut de partie plaignante. Il entend néanmoins encore se porter partie civile, ce qui lui permettra de conserver un certain espoir de récupérer ses fameux 150 millions de francs suisses en jeu. On passe à la politique. Václav Klaus est au seuil de la dernière année de son mandat. Dans un an, en effet, le 7 mars 2013, très précisément, prendra fin le mandat du président tchèque. Homme d'État qui, malgré ses opinions controversées, ne perd pas les sympathies d'une importante partie de la population tchèque, Václav Klaus dresse ces jours-ci le bilan de ses activités de l'année écoulée et ne tarde pas à préparer déjà son avenir post-présidentiel, comme nous l'explique tout de suite Václav Richter.
Une fois de plus, le président Václav Klaus a publié le livre de ses opinions politiques recueillies au cours de l'année écoulée. Il a présenté aux médias le livre retraçant la 9e année de son mandat par ses paroles.
Pour moi, c'est toujours un document très précieux sur toute une année. Bien sûr, c'est un document spécifique qui aborde les événements de l'année d'un seul point de vue, c'est-à-dire de celui du château de Prague et de la fonction de président de la République. Tous les événements importants, les litiges et les attaques politiques de l'année, tout cela se reflète dans mes réactions qui sont réunies dans ce livre.
Par la même occasion, le président a fait aussi son pronostic sur les événements de l'année 2012 et a esquissé un tableau plutôt sombre de l'évolution de la situation en République tchèque et en Europe.
Je ne veux pas répandre des rumeurs pessimistes, mais je ne vois pas un changement de tendance et une telle amélioration de la situation qui pourrait nous faire espérer que l'année 2012 sera meilleure, plus calme, plus stable et plus satisfaisante sur notre scène politique et en Europe, dans notre économie et dans l'économie européenne. Certains hommes politiques tchèques et européens font la sourde oreille et continuent sur la même voie car ils n'ont pas compris la nécessité d'un changement radical.
Le président n'est pas allé cependant jusqu'à préciser la nature des changements qui lui semblent tellement nécessaires. Une année avant le départ du président du château de Prague, la presse livre déjà des spéculations sur les activités de Václav Klaus après la fin de son mandat. L'homme qui domine la vie publique tchèque depuis plus de 20 ans n'entend pas se retirer de la scène politique. Pour préparer d'ores et déjà le terrain pour ses futures activités, il vient de fonder un institut qui porte son nom et qui doit jouer non seulement le rôle de bibliothèque présidentielle, mais dont les objectifs sont beaucoup plus ambitieux. L'institut rassemblera les documents sur la vie et l'œuvre de Václav Klaus propagera ses opinions et devra réagir également aux événements politiques, y compris les importantes questions internationales. Il abritera aussi un centre de recherche, le secrétariat post-présidentiel de Václav Klaus. Selon le commentateur de la télévision publique tchèque Petr Fischer, ce sera donc une institution plongée en plein dans l'actualité politique.
Institut plnící roli výzkumného pracoviště a ochránce prezidentových myšlenek.
L'Institut, jouant le rôle d'un centre de recherche et de protection des idées du président, se transformera facilement en un groupe lobbyiste influent. Les préparatifs progressifs du départ du président de la scène politique s'avèrent donc plutôt comme la préparation du terrain pour une forte plateforme nationale qui ne devrait pas disparaître de la politique, mais devrait s'imposer pleinement en tant qu'une forme originale du réalisme tchèque.
Ale měl by se jako originální český realismus konečně naplno prosadit.
Au cours de sa carrière présidentielle, Václav Klaus a souvent attiré l'attention et même scandalisé le monde politique par ses opinions radicales et controversées. Critique intrépide de l'Union européenne, il a déployé également beaucoup d'énergie pour mettre en cause certaines théories environnementalistes, dont celle sur le changement climatique. Il est fort probable que Václav Klaus, dès qu'il ne sera plus obligé de respecter une certaine retenue présidentielle, développera ces thèmes et finira par radicaliser encore ses opinions.
Non. C'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée, comme tous les 15 jours, au tourisme. Et dans le tourisme, dans le magazine touristique aujourd'hui, Magdalena Rozinková vous propose de visiter une des villas les plus célèbres qui existent en République tchèque, la villa Tugendhat. Située à Brno, en Moravie du Sud, donc, cette villa a été construite entre 1929 et 1930 dans le style fonctionnaliste par l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe. Classée à l'UNESCO depuis 2001, la villa Tugendhat a rouvert ses portes au public début mars après 2 ans de travaux de rénovation.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Style dépouillé, absence d'ornement, forme claire, rigoureuse, maison cubique et blanche, et une réflexion permanente des architectes sur le bien-être. Voici comment on caractérise le style fonctionnaliste du début du XXe siècle, dont la villa Tugendhat est un excellent exemple. Avant de faire un petit tour à l'intérieur du bâtiment, un mot sur la famille Tugendhat, qui n'a finalement habité la villa que pendant 8 ans. Les époux Tugendhat, Greta et Fritz, sont tous deux issus de familles d'industriels du textile de Brno. Mariés en juillet 1928, les Tugendhat décident encore avant le mariage de construire une villa dans la banlieue de Brno, dans le quartier de Tchernapole, sur un terrain offert à Greta par son père Löfberg et qui jouxtait la propriété de cette famille. Si les jeunes mariés ont fait appel au célèbre architecte fonctionnaliste Ludwig Mies van den Rohe, ce n'est pas par hasard. Fritz Tugendhat avait, paraît-il, horreur des maisons remplies de bibelots et de petites nappes brodée, et sa femme Greta rêvait d'une demeure moderne aux formes claires et simples. Les époux Tugendhat ont rencontré l'architecte lors du réveillon de la Saint-Sylvestre en 1928, comme nous le raconte le directeur du musée de la ville de Brno, Pavel Ciprian.
Il paraît qu'il a été émerveillé par l'endroit où devait se situer la villa, par ce terrain qui surplombe la ville, qui offre une vue magnifique sur Brno. Mies van der Rohe a alors aussitôt décidé d'accepter cette commande. Au lieu de fêter la Saint-Sylvestre, les époux Tugendhat ont passé toute la soirée en compagnie de l'architecte. Il leur a présenté son projet qui les a emballés.
Adapter la forme à la fonction, tel était le credo de Mies van den Rohe, né en 1886 à Aix-la-Chapelle et mort en 1969 à Chicago, où il s'était exilé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, comme le fera d'ailleurs aussi la famille Tugendhat. En 1930, à l'époque où il achève la construction de la villa Tugendhat, Mies devient directeur du Bauhaus, la célèbre école allemande d'architecture et des arts appliqués, dont l'influence sur l'architecture moderne, le design, mais aussi les décors de théâtre, fut immense. Mies van den Rohe a notamment créé le pavillon de l'Allemagne à l'exposition universelle de Barcelone en 1929, mais c'est surtout dans la seconde période de sa création, dite américaine, qu'il sera auréolé de gloire à Chicago et ailleurs. Il réalisera de nombreuses constructions en verre, en acier et en béton. Il se fera aussi connaître par ses fameuses sentences « Less is more »,« Moins est plus » ou encore « God is in the details »,« Dieu est dans les détails ». Less is more, ce slogan de l'architecte Mies van den Rohe est également valable pour la villa Tugendhat, une construction à 2 étages, dont on ne perçoit toutefois du côté de la rue que son étage supérieur où se trouvaient les chambres à coucher et les chambres d'enfants. La pièce la plus spacieuse et la plus originale est située au 1er étage. Elle inclut la salle de réception, le salon, la salle à manger, le bureau et la bibliothèque. La principale décoration y est la lumière. Toute la façade est en verre, de façon à ce que l'espace extérieur, à savoir le jardin et la vue sur Brno, soit le prolongement de l'espace intérieur.
Un détail technique important a contribué à créer cet effet. Il était possible de baisser les grandes vitres mesurant 3 mètres sur 5 mètres de façon à les faire glisser, coulisser dans le plancher. Les différentes parties de la pièce où il n'y a aucun mur porteur sont tout de même divisées par des sortes de cloisons, dont le célèbre mur en onyx, qui par ailleurs change un peu de couleur en fonction de la lumière du jour. Pavel Ciprian.
Voici le fameux mur en onyx qui provient du massif de l'Atlas au Maroc. Ludwig Mies van der Rohe, en personne, veillait à la création de ce mur pour que le dessin soit homogène. Par ailleurs, Mies a été le fils d'un tailleur de pierre, alors ce matériel lui était familier. Le mobilier que vous voyez ici est également l'œuvre de l'architecte. Par exemple, cette chaise-là, qui s'appelle Barcelone, parce qu'elle a été conçue pour le pavillon allemand à l'exposition universelle de Barcelone. Ce fauteuil s'appelle Tugendhat, ce qui veut dire qu'il a été créé précisément pour cette villa.
Alors que le mobilier d'origine, qui est actuellement en possession du musée de Brno, n'a pas pu être exposé, un autre mur intéressant, en demi-cercle qui sépare la salle à manger, est original. Il est fait en bois d'ébène de Macassar et on l'a cru perdu pendant de longues années. Finalement, il a été retrouvé dans l'ancien bureau de la Gestapo à Brno. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa Tugendhat a été habitée par l'ingénieur allemand en aéronautique Wilhelm Messerschmitt. À cette époque-là, les Tugendhat, d'origine juive, vivaient déjà en exil, d'abord en Suisse et ensuite au Venezuela. Après la libération, la famille a essayé en vain de récupérer la villa, qui a finalement été nationalisée en 1950. À la fin de la guerre, le bâtiment a servi d'écurie à l'armée rouge. Sous le régime communiste, on y organisait des cours de danse et ensuite des programmes de soins et de rééducation pour les enfants. La récente rénovation de la villa Tugendhat a pris du retard à cause d'un différend entre son propriétaire, la ville de Brno, et les héritiers des époux Tugendhat qui avaient souhaité qu'on leur restitue le bâtiment. Finalement, la rénovation, majoritairement financée par les fonds européens, a été lancée en 2010 et a été supervisée par une commission d'experts ainsi que la famille Tugendhat. Deux filles des propriétaires originaux de la villa, Ruth et Daniela, nées toutes les deux en Amérique du Sud, ont d'ailleurs assisté à la réouverture solennelle du bâtiment rénové. Pour différentes raisons, notre famille ne pourra plus jamais habiter ici, mais je me demande quand même s'il n'est pas possible de faire revivre cette villa, par exemple sous forme de soirée littéraire ou rencontre avec des architectes, a déclaré Ruth Guggenheim Tugendhat à l'occasion de la réouverture de la villa en mars 2012 à Brno. A noter que la villa vit déjà d'une certaine manière sa propre vie. Il a inspiré le roman de l'auteur britannique Simon Mauer, The Glass Room, nominé au prix de Man Booker Prize en 2009. Le réalisateur allemand Dieter Reichert est en train de tourner un film documentaire sur la villa fonctionnaliste et son destin mouvementé.
Et notons encore que les visites de la villa Tugendhat, située rue Tchernopolny, à Brno, à Moravie, donc, sont uniquement sur réservation. Plus de détails sur le site www.tugendhat.eu. Tugendhat, ça s'écrit T-U-G-E-N-D-H-A-T. Voilà, c'est noté et c'est sur cette précision que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy!